mort, tout moribond qu'il fût, il se souvint à ce moment-là du projet de croisade que son oncle Charles de Valois lui avait naguère mis en tête. Projet d'année en année différé. Les subsides de l'Église avaient été employés à d'autres fins. Et puis Charles de Valois était mort. Dans le mal qui le détruisait, Charles IV ne devait-il pas reconnaître un châtiment pour cette promesse non tenue, ce vœu non accompli? Le sang de poitrine dont il tachait ses draps lui rappelait la croix rouge qu'il n'avait pas cousue sur son manteau. Alors, dans l'espérance d'amadouer le ciel et de négocier quelque survie, il fit ajouter à son testament ses volontés concernant la Terre Sainte. « Car mon intention est d'y aller de mon vivant, dicta-t-il, et si de mon vivant ne se peut, que 50 000 livres soient données au premier passage général qui se fera. » On lui demandait simplement de léguer 3 d'une semblable hypothèque, la fortune royale, dont on avait besoin pour de plus pressants usages. Robert enrageait. Ce niais de Charles, jusqu'au bout, aurait de ses sots entêtements. On lui demandait simplement de léguer 3 000 livres au chancelier Jean de Cherchemont, autant au maréchal de Tri et à messire Mils de Noyers, président de la Chambre aux Comptes, pour leurs loyaux services rendus à la couronne, et parce que leurs fonctions les faisaient siéger de droit au Conseil des Pairs.
« Et le connétable ?» murmura le roi agonisant.
Robert haussa les épaules.
« Le connétable gaucher de Châtillon avait 70 ans. Il était sourd comme une marmite et possédait des biens à ne savoir qu'en faire.
Ce n'était pas à son âge que se développait l'appétit de l'or. » On raya le connétable. En revanche, Robert, avec beaucoup d'attention, aida Charles IV à composer la liste des exécuteurs testamentaires, car cette liste constituait comme un ordre de préséance parmi les grands du royaume. Le comte Philippe de Valois en tête, le comte Philippe d'Évreux, et puis lui-même, Robert d'Artois, comte de Beaumont-le-Roger. Cela fait, on s'occupa de rallier les pairs ecclésiastiques. Guillaume de Tri, duc archevêque de Reims, avait été précepteur de Philippe de Valois. Et puis, Robert venait de faire coucher son frère, le maréchal, sur le testament royal pour 3 000 livres qu'on sut rendre tintantes. On n'aurait pas de mécompte de ce côté-là. Le duc archevêque de Langres était acquis de longue date aux Valois. Et tout également leur était dévoué le comte évêque de Beauvais, Jean de Marigny, demi-frère survivant du grand Enguerrand. Vieille trahison, vieux remords, service mutuel avaient tissé de solides liens. Restaient les évêques de Chalon, de Laon et de Noyon. Ces derniers, on le savait, feraient corps avec le duc Eudes de Bourgogne.
« Ah, pour le bourguignon !» s'écria Robert d'Artois en écartant les bras. « Cela, Philippe, c'est ton affaire !»«
Je ne puis rien auprès de lui, nous sommes lance à lance. Mais tu as épousé sa sœur, tu dois bien avoir quelque action sur lui !»
Eudes IV n'était pas un aigle de gouvernement. Toutefois, il se rappelait les leçons de sa défunte mère, la duchesse Agnès, la dernière fille de Saint-Louis, et comment lui-même, pour reconnaître la régence de Philippe le Long, avait gagné le rattachement de la Bourgogne-Comté à la Bourgogne-Duché. Eudes, en cette occasion, avait épousé la petite fille de Mao d'Artois, de 14 ans plus jeune que lui, ce dont il ne se plaignait pas maintenant qu'elle était nubile. La question de l'héritage d'Artois fut la première qu'il posa, lorsqu'arrivant de Dijon, il s'enferma avec Philippe de Valois. Il est bien entendu qu'au jour du trépas de Mao, le comté d'Artois ira à sa fille, la reine Jeanne, la veuve, pour ensuite revenir à la duchesse, mon épouse. J'insiste fort sur ce point, mon cousin, car je connais les prétentions de Robert sur l'Artois. Il les a assez clamées. Ces grands princes ne mettaient pas moins de défiante âpreté à défendre leurs droits d'héritage sur les quartiers du royaume que d'Ébru à se disputer les gobelets et les draps dans une succession de pauvres.
« Jugements par 2 fois ont été rendus qui ont attribué l'Artois à la comtesse Mao, répondit Philippe de Valois.
Si aucun fait nouveau ne vient étayer les requêtes de Robert, l'Artois passera à votre épouse, mon frère.
Vous n'y voyez point d'empêchement ?
Je n'en vois mis. Ainsi, le loyal Valois, le preux chevalier, le héros de tournoi, avait donné à ses 2 cousins, à ses 2 beaux-frères, 2 promesses contradictoires. Honnête, toutefois, dans sa duplicité, il rapporta à Robert d'Artois son entretien avec Eudes, et Robert l'approuva pleinement.
L'important, dit ce dernier, et d'obtenir la voix du bourguignon, et peu importe qu'il s'ancre dans la tête un droit qu'il n'a pas. Des faits nouveaux, lui as-tu dit, eh bien nous en produirons, mon frère, et je ne te ferai pas manquer à ta parole. Allons, tout est au mieux.
Il ne restait plus qu'à attendre. Ultime formalité, le décès du roi, en souhaitant qu'il se produisît assez vite, pendant que cette belle conjonction de princes était réunie autour de Philippe de Valois. Le dernier fils du roi de fer rendit l'âme la veille de la Chandeleur, et la nouvelle du deuil royal se répandit dans Paris le lendemain matin, en même temps que l'odeur des crêpes chaudes. Tout semblait devoir se dérouler selon le plan parfaitement agencé par Robert d'Artois, quand à l'aube même du jour fixé pour le conseil des pairs, arriva un évêque anglais, au visage chafouin, aux yeux fatigués, sortant d'une litière couverte de boue, et qui venait représenter les droits de la reine Isabelle.